Chapitre 53. Le club de boxe Narva est presque vide, mais la chaîne du sac de frappe cliquait au rythme des coups violents portés par un poids lourd au visage absent. Le déplacement d'air au-dessus du ring fait danser des particules de poussière. Deux hommes plus jeunes font des sit-ups, chacun sur son tapis, sous la poire de vitesse abîmée. Saga sort des vestiaires en débardeur bordeaux, pantalon d'entraînement noir et chaussures de boxe éculées, s'arrête devant Juna et lui demande de l'aide pour se bander les mains. La tâche principale des services de sûreté de tous les pays est de faire peur à leurs politiciens, dit-elle à voix basse en lui tendant un rouleau de bande. Juna passe le crochet autour du pouce de Saga et fait quelques tours autour de son poignet avec la bande élastique, puis la tire en biais sur le dos de la main et autour des jointures. À chaque tour, Saga vérifie qu'elle peut fermer le poing. Pour la CEPO, l'absence de terroristes n'a aucune espèce d'importance. La menace a quand même été éliminée, poursuit-elle pendant qu'il enroule le tissu entre ses doigts. Et comme les hommes politiques ne peuvent pas avouer un tel gaspillage d'argent public, l'intervention est considérée comme un succès. Le poids lourd frappe des coups plus rapides et les deux jeunes ont commencé à sauter à la corde. Juna lui enfile les gants, les laces et entoure les nœuds de bandages adhésifs. Saga monte sur le ring et Juna prend deux pattes d'ours, sorte de petits coussins durs en cuir qu'il attache à ses mains pour l'aider à s'entraîner aux enchaînements de frappes et aux jeux de jambes. « La Suède a été épargnée, » dit Saga, et elle teste quelques coups contre Juna. « Mais nous n'y sommes pour rien. Les gens s'affoleraient s'ils savaient à quel point la CEPO avance en aveugle. » Juna commence à faire tourner les pattes d'ours, alternant les hauteurs et les positions, pendant que Saga le suit et enchaîne des séries compliquées de crochets et d'uppercuts. Il contre avec un des coussins, mais elle esquive et envoie une nouvelle série de coups qui résonnent dans le local. Elle baisse les épaules, penche la tête sur le côté et balance quelques directs du gauche. « Yannis et moi, on va poursuivre l'enquête préliminaire pour veiller à ce que rien ne puisse remonter au ministre des Affaires étrangères. » Juna incline les pattes d'ours pour qu'elle puisse lancer des jabs, envoie celui de la main droite et l'atteint sur la joue, puis recule et la laisse enchaîner avec deux coups puissants du droit. « Baisse un peu le menton, » dit-il. « Je suis trop fier pour ça, » sourit-elle. « Mais qu'est-ce qui va se passer si vous mettez la main sur l'assassin ?» demande Juna en l'accompagnant vers le coin bleu. Vive comme l'éclair, elle balance encore quatre coups. « Ma mission principale est de veiller à ce qu'il n'avoue pas le meurtre, » dit-elle. « Qu'il ne puisse en aucun cas y être lié, qu'il ne soit ni poursuivi, ni... »« Il est extrêmement dangereux, » l'interrompt Juna. « Et nous ne savons pas s'il va tuer encore. Nous ignorons tout de ses motivations. »« C'est bien pour ça que je t'en parle. » Le poids lourd a fini son entraînement. Il reste à fixer Saga d'un regard rêveur en tenant le sac de frappe dans ses bras. Les deux jeunes se sont approchés du ring et la filment avec leur téléphone. « Il faut que tu baisses le menton. »« Mais non, » dit-elle avec un éclat de rire. Elle quitte le coin, frappe un puissant crochet droit, roule les épaules et enchaîne avec un coup au corps tellement fort que Juna est obligée de faire un pas en arrière. « Si j'étais policier, je tenterais une autre approche, » déclare-t-il. « Laquelle ?» demande Saga en essuyant la sueur de son visage avec son avant-bras. L'autre Rajen. On va faire une pause. Elle lui tend ses deux mains et il défait la bande autour de ses poignets. Salim Rajen a un frère ici en Suède, dit Juna. Il est sous surveillance renforcée depuis l'assassinat de William Falk. Vous avez trouvé quoi? Il habite à Skövde, il est prof de collège et n'a aucun contact avec Salim, répond-elle en descendant du ring. Elle secoue ses mains pour faire tomber les gants pendant qu'elle se dirige vers les vestiaires. Quand elle revient, elle a une serviette autour du cou et ses mains sont débarrassées des bandes. Ils entrent dans le petit bureau et Saga pose son ordinateur portable vert militaire sur la table de travail. Des vitrines le long des murs exhibent des coupes et des médailles, des photographies encadrées et des coupures de journal jauni. « Je ne sais pas ce qui se passerait si Werner en venait à apprendre que j'ai tout conservé, » murmure Saga en cliquant dans les menus déroulants. « Absalon Rajen habite au 38A Lensmansgatan. Il est prof de maths et de sciences nat au collège Helena. » Elle écarte des mèches de cheveux collées sur son visage et continue de lire. Il est marié à Kerstin Renel, elle est prof de sport dans le même collège. Ils ont deux enfants qui sont en primaire. Elle se lève et va baisser les stores de la porte vitrée. Nous les avons évidemment mis sur écoute, lui et sa femme, poursuit-elle. Nous suivons leur activité sur le net, nous lisons leurs mails privés comme professionnels. La seule qui surfe un peu sur les sites porno, c'est la femme. Et il n'a vraiment pas le moindre lien avec William Falk?
Non.
Il a été en contact avec qui ces dernières semaines? Saga s'essuie le front et continue de parcourir les documents. À part ses relations habituelles, il a parlé d'un rendez-vous avec un mécanicien qui ne s'est jamais concrétisé. Creuse davantage là-dessus. Nous avons aussi un mail étrange en provenance d'un ordinateur sans adresse IP. Comment ça, étrange? Saga tourne l'ordinateur vers Juna et ouvre un message écrit en blanc sur fond noir. I'll eat your dead heart on the Razorback battlefield. La lumière de la lampe de bureau vacille devant l'écran taché quand une rame de métro passe sous le bâtiment. C'est plutôt menaçant, continue-t-elle. Mais nous pensons que c'est un jargon lié à une compétition. Absalon est responsable de l'enseignement des maths avancées et, dans ce cadre, ses élèves participent à la First Lego League. C'est un concours international qui consiste à construire des robots en Lego. Je pense qu'il vaut mieux prendre ça au sérieux. Janus prend tout au sérieux. Il travaille à plein temps sur ce mail et sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui, nous ne savons pas si c'est un canular ou une erreur, on n'entend que la respiration de Rajen et un enfant qui récite une comptine. Elle clique sur un fichier audio et la seconde d'après, une frêle voix d'enfant sort du haut-parleur.
10 little rabbits, all dressed in white, tried to go to heaven on the end of a kite. Kite's string got broken, down they all fell. Instead of going to heaven, they want to. 9 little rabbits, all dressed in white, tried to go to heaven on...
La communication est brusquement interrompue et le silence se fait. Saga ferme le fichier audio et murmure, tout en faisant dérouler le fichier du rapport, que la comptine peut aussi avoir un lien avec la compétition. C'est Absalon, la victime suivante, déclare Juna en se levant. Ça ne colle pas, objecte Saga avec un sourire involontaire. On a fouillé partout. Saga, il faut que vous envoyiez une unité chez lui tout de suite. Pas nous. J'appelle Carlos, mais dis-moi au moins pourquoi tu penses... Appelle-le d'abord, la coupe Juna. Saga prend son téléphone, compose un numéro et demande à parler à Carlos Eliasson, l'ancien supérieur de Juna et directeur général de la section nationale opérationnelle, comme s'appelle désormais la Rikskrim. Rajen, des lapins et l'enfer, se répète Juna. Il songe à la voix enfantine claire et un peu hésitante et à la comptine qui parle de lapins qui veulent aller au ciel, mais se retrouve en enfer les uns après les autres. Pendant l'interrogatoire de Sophia, il avait essayé d'analyser les différentes esquisses de portrait du criminel. Sophia avait d'abord cru que l'assassin avait les cheveux longs, que des mèches pendaient à côté de sa tête. En creusant dans ses souvenirs les plus lointains, elle avait ensuite décrit les mèches comme étant plutôt des bandes de tissu épais, peut-être de cuir. Quand elle avait essayé de les dessiner sur le portrait robot, ça ressemblait d'abord à de grosses plumes, des sortes de rémiges, avant de se transformer en cheveux embroussaillés. Mais ce ne sont pas des plumes qu'elle a vues, songe Juna. Il est pratiquement certain que c'était des oreilles de lapin qui pendaient sur ses joues. Rajen, des lapins et l'enfer. L'assassin a cité le nom de Rajen en disant que l'enfer allait les engloutir. Il a l'intention de tuer tous les lapins de la comptine. Saga tente d'expliquer à Carlos qu'ils doivent immédiatement envoyer une unité chez le frère de Salim Rajen à Skövde. « Mais je dois comprendre pourquoi, » proteste Carlos. « Parce que Juna le dit. »«
Juna Lina ?»
s'exclame Carlos, stupéfait.
« Oui. »
Mais il est en prison.
Pas en ce moment, répond-elle simplement.
Pas en ce moment.
Contente-toi d'envoyer une unité là-bas tout de suite. Juna prend le téléphone des mains de Saga et entend la voix du patron. Juste parce que Juna est la personne la plus têtue, je suis têtu parce que j'ai probablement raison, l'interrompt-il. Et dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre si vous voulez lui sauver la vie.